Chers auditeurs et chères auditrices de Radio FM+, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette brève rencontre, cette nouvelle brève rencontre, et j'espère finalement assez brève, puisqu'aujourd'hui nous allons aller à la rencontre du diable. Et oui, parce que le diable est quand même assez présent dans les textes bibliques, et puis cette figure diabolique est plus complexe que l'on peut le croire. Je vous propose pour ça déjà un premier texte pour partir à la rencontre du diable dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3, puis le chapitre 4, le début du chapitre 4. Donc, ça se situe juste après le baptême de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Aussitôt baptisé, Jésus sort de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fait entendre des cieux avec ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans une ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Alors, le diable le laissa. Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Voilà. Voilà donc cette rencontre avec le diable. Le diable, ou bien Satan, ou bien le tentateur, comme on l'entend dans ce texte, on le retrouve aussi sous le nom de Belzébuth dans d'autres endroits, et surtout dans cet Orient ancien, dont la culture est celle du judaïsme de cette époque. On trouve aussi des démons. Tous, en tout cas, représentent des figures du mal. Il est vrai qu'il est déjà bien complexe de parler, de prêcher sur l'Esprit-Saint. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être qu'on en saura un peu plus sur l'Esprit-Saint. Pourtant, dans notre existence, si nous sommes amenés avec bonheur à faire l'expérience de cette rencontre avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire avec Dieu lui-même, nous sommes amenés aussi, bien trop souvent, à affronter les forces beaucoup plus obscures, des forces du mal auxquelles on a donné des noms divers et variés, comme je le disais, diable, Belzébuth, démon, Léviathan, le malin. Et la tradition, l'iconographie, ont fait tout le reste. Ainsi, le diable se trouve affublé d'une queue et d'une fourche. Et puis le diable, c'est un nom propre, Satan aussi, alors qu'en réalité, dans les textes, c'est un peu plus complexe. Et le risque de ces représentations, c'est de nous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire être capable de reconnaître ce mal, le mal qui nous assaille, mais aussi de l'affronter. Il est à la fois rusé et suffisamment intelligent pour se cacher parfois sous des formes très sympathiques. D'ailleurs, ne dit-on pas que le diable s'habille en Prada. S'il est écrit, s'il est un récit où ses forces sont données vraiment rendez-vous, c'est bien cette scène qui inaugure l'Évangile selon Matthieu. Lorsque Jésus est transporté dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. C'est étonnant tout de même que le ministère de Jésus commence avec cet épisode. À peine est-il baptisé que le voilà transporté dans le désert. Donc on est transporté, nous aussi, dans cette grande scène théâtrale qu'est le désert. La tension dramatique est intense. Deux personnages vont s'affronter. L'identité du premier, c'est-à-dire Jésus, vient d'être révélée, il est le Fils bien-aimé, mais l'autre reste pour le moins énigmatique. Dans l'épisode qui précède, Jésus est baptisé. L'Esprit de Dieu descend sur lui et une voix retentit pour nous dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Bon, faudrait-il encore savoir ce que cela signifie. Le second acteur, lui, est identifié au diable. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas si simple. Si l'identité de Jésus est apparemment connue, il lui faudra nous dire ce que signifie être fils bien-aimé de Dieu. Et ça, nous le découvrirons tout au long de l'Évangile. Quant à l'autre, c'est nous qui sommes amenés à trouver qui il est. Le diable, première dénomination, le tentateur, deuxième dénomination, ou bien encore Satan. Le diable, qu'est-ce que ça signifie ? En réalité, en grec, le diable, c'est celui qui divise. Alors, les lecteurs et les lectrices d'Astérix connaissent Tullius Détritus, celui qui arrive au village gaulois et qui sème la zizanie. C'est-à-dire qu'il les divise tous ensemble et puis très rapidement, eh ben, ils se tapent dessus, comme ils aiment bien le faire, il faut le reconnaître. C'est cela le diable, c'est celui qui amène le chaos en divisant. Le tentateur, le titre est bien significatif. On peut le traduire également par celui qui éprouve, donnant ainsi une dimension plus large à son rôle. Parce que le mot « tentation » ou « épreuve » en grec, c'est le même mot. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, j'aimerais personnellement mieux que l'on traduise par « laisse-nous, épargne-nous les épreuves » plutôt que les tentations. Et enfin, Satan, avec un grand S. Ça nous fait penser à un personnage, mais en réalité, Satan, ça vient d'une racine, alors là, hébraïque, qui signifie l'adversaire, l'accusateur. Il s'agit en fait bien plus d'une fonction que d'un individu. C'est celui qui accuse. Et d'ailleurs, contre Satan, dans les évangiles, particulièrement dans l'évangile de Jean, il y a une arme. C'est le nom que l'on donne à l'Esprit-Saint, au chapitre 14 de l'évangile de Jean, qui est le paraclet. Et qui est traduit par souvent le consolateur. Mais en réalité, eh bien, ce consolateur est aussi celui qui défend. Le consolateur, le défenseur. Comme si l'Esprit de Dieu était là aussi pour prendre notre défense face à ce Satan qui accuse. Alors, doit-on dire diable, tentateur, Satan ? En tout cas, ces différents titres nous invitent à découvrir les multiples visages que peuvent prendre les épreuves, le mal. Parfois difficile à identifier. Mais le plus étonnant dans ce passage, c'est le premier verset. Celui qui amène Jésus à l'épreuve, c'est l'Esprit, en le transportant dans le désert. Au lieu de nous laisser tenter, en évitant ce qui est choquant dans le texte, nous pouvons nous laisser interpeller par ce qui nous semble scandaleux. En effet, c'est cet Esprit qui mène Jésus dans le désert. Mais cet esprit, c'est aussi le défenseur qui va s'opposer à Satan. C'est parce que l'esprit est là, avec lui, que Jésus va pouvoir résister. L'esprit n'est pas un bouclier, une protection, mais bien celui qui est à nos côtés pour affronter le mal dans notre existence. Cela se retrouve dans un jeu d'écho. Et pour cela, nous pouvons entendre un jeu d'écho dans les Écritures. Ce passage est truffé de références au Premier Testament. Les versets invoqués ne sont pas sans lien avec l'enjeu de notre récit. Ils se situent essentiellement dans le Deutéronome, c'est-à-dire dans le désert. Cela nous rappelle l'épreuve du peuple hébreu. L'épreuve est rappelée, mais aussi son interprétation ici n'est pas négative. En effet, comment vivre si on ne peut résister à l'adversité ? Nous le savons, notre monde, notre quotidien est bien fait constamment face au mal. Et ainsi, l'épreuve, eh bien, elle est présente. Et ça, le texte biblique ne l'occulte jamais. Et l'Esprit, et Dieu, n'est jamais un talisman qui protège de tout mal. Il est celui qui nous guide, celui qui enseigne pour que nous puissions découvrir la vraie vie et ce qu'il y a de positif dans la vie. C'est ce qu'expérimente le Christ pendant ses 40 jours au désert. Il comprend que la grande question à laquelle le diable le confronte est celle de savoir comment être fils de Dieu, dans la toute-puissance, ou alors en consentant à la mission de son Père, c'est-à-dire en acceptant sa condition de serviteur, sa condition humaine. Faire l'expérience de sa limite pour apprendre à vivre avec et aussi comprendre les limites de l'autre parce que le Christ est venu pour que chacun et chacune d'entre nous même le plus faible, le plus petit, puisse être capable d'affronter son quotidien. Et dans ce texte que nous avons entendu, dans ce texte de Matthieu, nous pouvons aussi être interpellés par l'usage de l'écriture. De nombreuses citations, 4. Aujourd'hui encore, certains et certaines s'appuient sur des citations, des morceaux de l'écriture pour asseoir leur position, en particulier en matière de gouvernance de l'Église, mais aussi en matière éthique, voire politique. On voit ici que la référence ne peut suffire, l'usage ne peut suffire, et même que cet usage de la référence peut avoir un caractère diabolique, satanique, qui vise justement à diviser ou bien à accuser. Nous assistons dans ce passage à une sorte de battle de versets, verset contre verset. Mais nous comprenons très rapidement aussi que cela nous initie, nous invite à comprendre la tension qu'il peut y avoir entre différents passages. D'ailleurs, Jésus, tout de suite, entre là-dedans. Il est écrit, c'est ce que dit le diable, et d'autre part, Jésus met en avant un autre verset pour dire que finalement, un seul verset, un seul passage ne peut suffire. Alors, je vous relis ce passage où le diable donc le transporta dans la ville sainte. Il le place sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Là, on est vraiment, on entend bien, dans le rôle de la tentation. « Car il est écrit, il donnera des forces à ses anges à ton sujet et il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « D'autre part, c'est-à-dire que finalement, mon vieux, ce que tu dis, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » C'est-à-dire que c'est épreuve contre épreuve. Il ne s'agit pas de mettre Dieu à l'épreuve. Il s'agit d'être capable, nous, de nous mettre face aux épreuves et avec Dieu d'affronter ces épreuves pour les traverser. Autre manière d'affronter le mal, c'est celle mise en avant par les démons. Je vais vous lire un court passage de l'évangile de Marc au tout début. Là aussi, on est au début du ministère de Jésus. Donc, ils entrent dans Capharnaüm, s'étant rendus à la synagogue le jour de sabbat, Jésus se met à enseigner. Ils étaient tous ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écrie « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen ? Es-tu venu pour notre perte ? Je sais bien qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux « Qu'est-ce donc ? Un enseignement nouveau ? Et quelle autorité ? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Bon, là, on est dans un combat contre le mal. Nous sommes au début de l'Évangile. On pourrait s'interroger qu'est-ce qui fait autorité ? Comment reconnaît-on l'autorité de Jésus ? En tout cas, premier enseignement, premier miracle, d'ailleurs c'est plutôt un exorcisme, mais aussi première confession de foi. Je vous disais juste précédemment que l'usage d'un verset biblique pouvait être problématique. Mais là, ce qui est encore plus étonnant, c'est que le premier qui reconnaît Jésus, le premier à reconnaître Jésus est un esprit impur. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur ce qu'est confesser sa foi. Est-ce que c'est juste déclarer qui est le Christ, qui est Dieu, ou est-ce que c'est vraiment vivre avec le Christ, vivre avec Dieu? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous rejoint aujourd'hui. Combien de personnes cherchent à asseoir leur autorité en s'appuyant sur des écritures, d'ailleurs quelles qu'elles soient, que ce soit la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, et en cherchant ainsi dans les écritures une manière d'asseoir leur autorité et surtout d'avoir une puissance, une autorité pour écraser les autres et non pas contrairement à ce que veut le Christ, c'est-à-dire se mettre au service des autres. Confesser sa foi, c'est une chose, la vivre et se mettre au service de l'autre, c'est vraiment cela, en cela que nous pouvons confesser notre foi. Mais dans ce texte, est-ce que, si on continue, c'est assez intéressant, on ne sait jamais qui parle. Est-ce l'homme qui parle ou bien est-ce le démon ? Lorsque l'homme s'adresse à Jésus, on ne sait pas qui parle. Et à aucun moment, nous ne pouvons répondre. L'homme est toujours dans le chaos, dans la confusion. Il est entre le possédé et l'esprit impur. Il y a quelque chose de total, mais il y a un vrai chaos, comme cela peut exister aussi en nous-mêmes par moments. Nous sommes dans un vrai chaos. Nous ne savons plus. Nous ne savons plus ce qu'il faut faire, pas faire, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous ne savons plus où nous en sommes. Et sans être habités par un esprit impur, nous sommes tout de même invités à faire une manière de séparation et essayer de voir ce que nous pouvons garder et ce que nous pouvons rejeter. C'est exactement ce que, le travail que fait Jésus. L'esprit impur dans cet homme prospère. Il se multiplie dans un organisme comme dans un parasite. Dans un autre passage de l'évangile de Marc, on nous dira même qu'ils sont légions. Le démon ne veut pas être tourmenté dans le tourment qu'il crée. Mais Jésus ne se laisse pas posséder par le démon. Il opère un travail de distinction, de séparation. Il dit à l'esprit impur de sortir de l'humain. Jésus, pour le guérir, va opérer ce travail justement de distinction, de séparation. Il va séparer l'homme et l'esprit. Il va garder cet homme et il va expulser l'esprit. Par sa parole, Jésus va rendre la vie à cet univers complètement désarticulé, sans distance, sans distinction. Il va recréer une personne humaine. Le vocabulaire est là, chaos, confusion, puis séparation, expulsion. Et ça nous renvoie à un tout autre récit, au premier récit, celui de la création dans le livre de la Genèse, au tout début. Lorsqu'on nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était chaos ». Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Ainsi, derrière l'exorcisme, c'est bien de création dont il est question. D'ailleurs, l'évangéliste nous l'a annoncé dès le début d'entrée, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avec la venue de Jésus, il y a un commencement. C'est le passage du chaos à l'harmonie. C'est la possibilité du passage de la mort à la vie, tel que cela se terminera au moment de la résurrection. Car la parole de Jésus a la force de séparer, elle a la force d'expulser. Et au discours du savoir de l'esprit impur s'oppose l'acte créateur. Enseigner, ce n'est pas posséder un savoir qui enferme l'autre dans une identité figée, mais c'est bien faire émerger un sujet. Et ça, aujourd'hui encore, c'est quelque chose à comprendre qui est essentiel. Pour en revenir à notre récit, dans le Premier Testament, il y a ce récit de création en Genèse 1 qui est un récit à la fois doux, aucune négation, tout se passe tranquillement. Mais il y a aussi des passages où Dieu combat. La création, c'est aussi un combat. Et dans notre vie, nous sommes aussi amenés à combattre ce mal qui nous permet justement une création nouvelle. Dans le psaume 74, on entend le psalmiste s'adresser à Dieu, il lui dit « Tu as écrasé la tête du Léviathan ». Léviathan, c'est une autre forme du mal, un mal qui vient du fin fond du chaos, du fin fond des forces obscures. Tu as écrasé la tête du Léviathan, force du mal et du chaos. Mais également, nous trouvons ça dans le livre de Job. Donc, tout dans ce passage et dans le passage précédent nous invite à nous poser la question de l'identité du diable. Certains de mes confrères, de mes consœurs, certaines de mes consœurs, et même dans nos communautés, j'entends parfois dire que le diable n'existe pas. C'est quand même un peu fort parce que cela nous coupe de la possibilité justement d'identifier tout ce qui est mal. Plusieurs manières, plusieurs visages du mal. Et ce qui est intéressant justement dans ce texte de l'évangile de Matthieu, on voit bien qu'il peut prendre divers visages et encore bien d'autres, nous invite justement à affronter la question du mal. La question du mal est une question essentielle pour tout croyant. La question du mal nous permet aussi de nous tourner sans cesse vers Dieu. Jésus ne se demande pas d'ailleurs d'où vient ce mal. La question ne se pose pas ainsi. D'où vient le mal? Est-ce Dieu? Est-ce le diable? La question ne se pose pas ainsi, à mon avis. Mais Jésus reconnaît le mal et il l'affronte. C'est ce à quoi nous sommes invités également. D'ailleurs, le philosophe Paul Ricoeur disait « Ce n'est pas tant l'origine du mal qui est importante. Ce qui est important, c'est l'avenir du mal. C'est qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pour que ce mal disparaisse et que ce monde que Dieu désire puisse émerger. » À très bientôt !